Howdy, amis joueurs et amis joueurs. Tout d'abord, je tenais à commencer par vous remercier de vos commentaires, tweets et autres emails. Tant de mots gentils, c'est vraiment cool et c'est surtout très encourageant. Vous m'avez fait part d'un problème fondamental qu'on aborde assez peu quand on cause de jeux de rôle. Comment faire pour se lancer? Eh bien, c'est à cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Globalement, en tant que praticien du jeu de société, nous avons un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que nous sommes sensibles au concept même du jeu et que c'est parfois plus facile de se glisser dans la peau d'un personnage. Pas mal de jeux de plateau proposent une carte de personnage qui donne un objectif précis aux joueurs, je pense notamment aux jeux inspirés du Discworld. L'inconvénient, c'est que le jeu de rôle n'a pas du tout la même dynamique que le jeu de société. On ne compte pas de points de victoire, on ne calcule pas de score, et surtout on ne fait pas de classement de qui a gagné à la fin de la campagne ou du scénario. Si certains jeux de société peuvent avoir un mécanisme complexe, il y a toujours un but clairement identifié, avec un ordre dans les différentes phases de jeu ou les différentes actions. Par exemple, à Dominion, pour prendre un jeu que j'aime bien, on joue d'abord ses cartes actions et ensuite on fait ses achats. Ou à Seasons, on va piocher 9 cartes, qu'on va répartir en premier âge, deuxième âge et troisième âge. Passer du jeu de plateau au jeu de rôle sans préparation psychologique, c'est un peu comme de passer de l'acrobranche au saut à l'élastique. Ça reste une activité de vol, mais en dehors des lois de la gravité, il n'y a pas beaucoup de points communs dans l'expérience. Il n'y a que deux postures dans le jeu de rôle, joueur et maître du jeu. Je vous avais expliqué sommairement dans mon épisode précédent le rôle du maître du jeu, à savoir garantir le respect des règles, faire vivre l'histoire dans laquelle vont exister les personnages et animer l'existence partagée des joueurs. Loin de moi l'idée de vous donner un mode d'emploi magique qui, si vous le suivez à la lettre, fera de vous le meilleur rôliste que la Terre ait jamais porté. Je ne peux que vous transmettre une expérience et quelques réflexions. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de la façon dont je prépare mes parties en tant que maître du jeu, car c'est comme ça que je me suis lancée pour de bon dans le jeu de rôle. Alors, je distingue deux origines des scénarios qu'on va faire jouer, ceux qui sont déjà prêts et ceux qui sont inventés par les maîtres du jeu. Je fais jouer les deux de manière indifférente pour ma part, et les deux peuvent se combiner. On distingue également les scénarios qui s'inscrivent dans une campagne, c'est-à-dire qui va durer sur plusieurs sessions de jeu, ou des one-shots qui n'ont pas de progression particulière dans le temps et qui sont destinés à, entre guillemets, mourir une fois que la partie est terminée. Dans les grandes lignes, les deux se préparent de la même façon. Pour vous donner une idée, je joue actuellement dans deux one-shots, un dans l'univers de Polaris et un dans l'univers de Cthulhu, dans une campagne de Discworld, et tous les trois ont une histoire inventée par les maîtres du jeu. De mon côté, je maîtrise une campagne de Z-Corps et une de Non-Armies, pour laquelle j'ai inventé des histoires, mais je maîtrise aussi des one-shots de Non-Armies qui sont déjà tout prêts. Pour préparer des parties, je procède en deux temps. Pour les parties avec des scénarios déjà tout prêts, je commence par lire, relire et re-relire le scénario, jusqu'à ce que j'en connaisse toute l'histoire, la chronologie des événements, les temps morts, les personnages non-joueurs, les règles spécifiques s'il y a lieu. Une fois que ça c'est bon, je prends des notes. Je pourrais vous mettre des photos si vous le voulez, mais visualiser un beau scénario déjà tout écrit, avec plein de pattes de mouche dans les marges, des schémas et des lignes de temps partout. Une fois que je suis à l'aise avec tout ça, je bidouille un peu le scénario si j'ai envie. Ça peut être très mineur, comme de changer le nom d'un PNJ, d'un lieu ou des changements plus conséquents. Ça m'est parfois arrivé de toucher à la structure du scénario, c'est-à-dire accélérer la ligne de temps, enlever des événements ou donner moins de détails que ce qui était prévu initialement, parce que j'utilisais ce one-shot pour un début de campagne. Donc je ne voulais pas que tout le monde puisse deviner la suite à la fin du scénario. Lorsque je dois inventer l'histoire, c'est un peu différent, même si au final, j'ai exactement le même contenu, à savoir une ligne de temps, des événements et des PNJ. Avant d'arriver à tout ça, j'écris, je cogite, je m'inspire et je lis. Concrètement, j'ai un cahier dans lequel je note des trucs, avec des codes qui sont les miens, qui sont passablement incompréhensibles pour le reste du monde. J'y mets des scènes, des visages, des situations, ou des bribes de conversations que je recueille dans la vie de tous les jours. Tout ça, je l'écris au stylo bille. J'y mets aussi des concepts qui me parlent, des définitions de mots, des citations ou des passages de bouquins que j'écris cette fois-ci au stylo plume. J'ajoute aussi régulièrement des paroles de chansons que j'écris au stylo feutre, et je réserve d'autres pages dans une autre section du cahier pour des scénettes que j'aimerais faire jouer dans l'absolu à une table de jeu de rôle un jour. J'ai pas poussé le vice jusqu'au code couleur, dans le cahier de MJ, mais j'en ai un pour naviguer dans mes livres de jeux de rôle. En général, le orange, c'est pour la baston, le vert, c'est pour les règles, et les autres post-it, c'est réservé au MJ. Je vais piocher quand j'en ai besoin dans ce cahier de MJ, et je prends des feuilles de papier pour y noter un semblant de ligne de temps, des caractéristiques des PNJ que je vais faire jouer, ainsi qu'un bref historique. C'est-à-dire que, une fois que j'ai tout ce matériau, je peux arriver à des mots-clés qui vont me permettre de gérer mon scénario. Un exemple tiré de ma campagne de Non-Armies. Pendant un concert qui durait dans le jeu 3 heures, les personnages joueurs ont rencontré Wu-Tang, musicien mystique qui, sous son cache-temps orange, cache ses muscles surdéveloppés, hérités de son passé de maître d'armes. Ce qui correspond, dans les règles, à un 70 en body, un 60 en speed, un 40 en mind et un 70 en sang. Dans un second temps, je m'occupe de l'accessoire. Et l'accessoire, c'est essentiel et on ne le dit jamais assez. Ça peut constituer à imprimer des fiches de personnages si les joueurs ne s'en chargent pas, lancer les invitations, dire à mes joueurs qui amène le jus de cranberry. Ça a l'air anodin dit comme ça, mais savoir gérer le temps de jeu, ménager des pauses, que ce soit pour grignoter un dîner, un déjeuner ou un goûter, faire un arrêt au stand, c'est ce qui peut faire la différence entre une partie qui se découle de façon agréable et un raté parce que tout le monde avait faim, tout le monde était fatigué et donc tout le monde était très grognon. En général, je fais aussi un poil de recherche pour apporter des éléments de contexte qui vont aiguiller mes joueurs pendant la partie. Ça peut être des éléments visuels comme des plans, des images ou même des objets, et des éléments auditifs, parce que j'aime bien avoir un fond sonore quand je joue. C'est beaucoup plus facile de mettre un plan sous pile de vos joueurs, quitte à le dévoiler au fur et à mesure, plutôt que de se lancer dans une description un peu artificielle d'un lieu. Le genre, alors, vous entrez dans une pièce qui fait 2,50 m sur 4 m de long, il y a 4 piliers situés à 80 cm du mur de droite, le sol de la pièce est recouvert de dalles avec des motifs floraux représentant le tentacule sacré du grand ancien. Bon, tout ça, ça a tendance à m'énerver en tant que joueur parce que j'ai le sentiment qu'on me prive de mes capacités de réflexion et de découverte. Quitte à y passer un peu plus de temps, je préfère explorer un lieu en tant que PJ en posant des questions spécifiques au MJ ou à me forger ma propre opinion de l'endroit avec un visuel. En tant que MJ, c'est aussi intéressant de faire ça parce que les questions qu'on va vous poser peuvent vous donner de quoi rebondir. Je vous mettrai sur le site de ProxyJeu un exemple de compte-rendu de partie que j'avais fait au début de ma campagne d'Unknown Armies. Et quelques photos aussi pour vous donner une idée du genre d'ambiance que j'ai pu mettre en place moyennant quelques efforts de préparation. Pour les éléments visuels, j'ai tendance à l'overkill quand j'ai le temps et je suis capable de décorer 80% de mon appart pour que mes joueurs soient littéralement plongés dans l'ambiance que je veux leur créer. Je recommande pas spécialement la chose car je trouve que c'est déjà un luxe terrible de pouvoir jouer chez moi et la chose devient impossible ou presque si vous jouez dans un lieu public. Je reviens une minute sur l'ambiance sonore dans la préparation. De manière générale, j'aime bien maîtriser avec un fond musical pour deux raisons. La première étant bien évidemment l'ambiance, mais la seconde c'est que c'est en fait un de mes trucs en tant que maître du jeu, que j'utilise quand je prépare la partie. Donc je fabrique une playlist qui suit une idée du rythme que je veux imposer pendant le temps de jeu, et surtout, ça me sert à gérer le temps. Donc ça, c'est utile parce que ça me permet d'un côté d'avoir indirectement un œil sur la montre, mais aussi ça permet parfois d'avoir des éléments contextuels qui vont pour le coup donner une ambiance très lourde parfois à la partie. Pour vous donner un exemple, toujours dans ma campagne de Non-Armies, j'ai réussi à faire flipper mes joueurs en éteignant la lumière et en éteignant la musique pendant environ 3 minutes. L'absence de musique est ce qui les avait mis le plus mal à l'aise, ce qui, je vous rassure, était le but recherché, car elle était directement en lien avec l'action qui se déroulait. A l'inverse, un petit coup de musique classique, de hard rock, un bruit de porte qui grince, de pas ou de fête étouffée, ça peut aussi vous aider à donner une ambiance qui sera plus facile pour vos joueurs à comprendre et surtout, ça leur donnera des éléments sur la manière dont leur personnage doit se comporter. Mine de rien, ça aide. Le risque étant que si vous mettez la musique de Braveheart dès que vos joueurs sont supposés faire péter leur bouche en combat, ça risque d'être très lassant à la longue, pour tout le monde. Si j'aime les ambiances de jeu un peu, enfin voire très théâtrales, c'est loin d'être le cas de tout le monde et tant que ça reste pas accessoire, c'est totalement superflu. Si je récapitule, pour vous lancer dans le jeu de rôle, en tant que MJ, préparez vos parties, prenez votre temps. C'est-à-dire qu'il faut que vous maîtrisiez bien les règles, que vous sachiez naviguer dans votre bouquin, que vous puissiez, sans avoir besoin de chercher pendant 3 quarts d'heure la page 394 pour les règles spécifiques de combat, pouvoir dire « lance-moi XD ». Ensuite, il faut bien évidemment connaître l'histoire de votre session sur le bout des doigts et avoir un peu travaillé votre background, parce que c'est ce qui va faire la différence entre le MJ qui va chercher toutes les 2 minutes le nom de la ville dans laquelle les personnages joueurs arrivent et celui qui dira « vous entrez maintenant dans la merveilleuse ville de machin » puisqu'il aura bien connu la chose. Donc que ce soit pour des éléments d'ambiance, de nom, etc., de PNJ, d'objets ou d'ambiance sonore, c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence. Donc soyez vigilants. Surtout prenez votre temps, puisque en moyenne, moi quand je prépare des scénarios, ça peut me prendre 6 à 8 heures, voire parfois plus. Mais c'est en général, ça vaut le coup. Donc je vous dis à bientôt pour ma prochaine chronique. Et d'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, des points que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à passer me dire un mot sur Twitter ou sur le site de ProxyJeux. D'ici là, faites rouler vos D4, vos D10, vos D6, vos D12, vos D100 et gagnez plein d'XP. Je joue.